présence dans les imaginaires maçonniques et ésotériques qui concernent les croyances. Alors ceux qui restent après la séance sur les Amériques ne vont pas être surpris, puisque là on va passer en Afrique. Alors je vous présente Monsieur Gérald de Krebs. Monsieur Gérald Krebs est un collectionneur passionné d'objets d'art africain, alors d'objets religieux, animistes, fétichistes, etc., etc. Il a depuis plusieurs dizaines d'années réuni une collection absolument impressionnante que j'ai eu la chance de visiter. J'ai eu la chance de la voir en perspective, comme vous pouvez la voir en allant à la galerie du Bailly, où c'est une partie des objets qu'il possède, ou alors non, il ne les possède pas, il en est l'usufruitier.
Voilà,
Et
absolument.
il les transmet. Et en même temps, il les sauve, il essaie de leur redonner la mémoire qu'ils ont perdue ou que nous en avons perdue. Vous allez l'entendre, c'est un collectionneur passionné, passionnant, et qui va nous montrer d'autres croyances que celles auxquelles nous sommes habitués en essayant de leur restituer. Alors, je vais dire Laura, dans une acception très, très, très générale. Alors, Monsieur Krebs, vous avez la parole.
Je vais essayer de ne pas trop m'ennuyer avec.
Non, 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 vous n'ennuierez personne, vous êtes passionnant.
Non, si vous voulez, bon, on va déjà commencer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ces objets-là. Enfin, non, pour mon cas personnel, parce qu'il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée commerciale qui est malheureusement actuellement une des entrées principales, puisque c'est bien de plus en plus un objet de spéculation. Ou alors, dans mon cas, je suis parti de la bande dessinée qui ne m'intéressait plus pour essayer de trouver un autre univers graphique au départ. Donc, exactement 100 ans après les grands découvreurs de l'art africain, Picasso et autres, en 1905, je m'y suis un peu intéressé, je m'y suis mis. Et pourquoi l'art africain? Parce que quelque part, en tant que dessinateur, je voulais tomber sur d'autres types d'images, d'autres types d'inspiration graphique. Donc, même lignée qu'en fait 100 ans avant, mais on est en province, c'est très très long pour venir au fond de chez nous. Donc, l'art africain en particulier, parce que c'est celui qui est très différent du nôtre et très disponible. Malheureusement, à cause des colonies, à cause du pillage, à cause. Bon, il y a aussi un peu la curiosité, à cause de tout ce que les pères blancs ont pu ramener. Bon, bref, il y a énormément de choses. Alors, au départ, si vous voulez, on s'intéresse à ces objets-là par le biais même de la forme. Enfin, tout au moins pour moi. Et puis, assez rapidement, quand on trouve des choses très étranges, on se dit, mais ces formes-là, est-ce qu'elles correspondent à quelque chose ou pas? Et d'abord, d'où elle vient? De quel pays elle vient? À quoi elle pouvait servir? Donc, ça. J'ai commencé à m'intéresser à ça en 85. Les livres étaient relativement peu disponibles. Et discutant avec un antiquaire qui me vendait une pièce, il m'avait expliqué qu'à l'époque, les bourgeois possesseurs de ce genre de choses ne voulaient pas en parler, tenant à garder pour eux toute la rareté et toute la, comment dirais-je, la force de ces objets. Donc je me suis dit à l'époque, c'est intéressant de s'y intéresser à la fois pour l'aspect plastique, mais également parce que manifestement, il y a quelque chose à transmettre au point de vue de leur esthétique, de leur beauté, mais aussi éventuellement plus que ça. Et donc, cette première pièce achetée, enfin une des toutes premières pièces achetées, était une maternité, elle n'est pas ici, parce elle est trop grosse et trop fragile. Et la question posée, à quoi ça sert et d'où ça vient? L'antiquaire m'a dit, bah écoutez, ça vient d'une maison bourgeoise de Nancy des années 20, et on ne sait pas d'où c'est, on ne sait pas ce que c'est. Seul problème, c'est que cet objet-là portait des griffures au-dessus de la poitrine, donc des griffures rituelles a priori. Donc ça me laissait à penser que c'était une autre chose qu'une simple sculpture, donc un rituel derrière. Alors il s'est avéré longtemps après que j'ai fini par m'approcher de ce qu'était peut-être ce rituel. Et comment dirais-je? Et puis bon, surtout, j'ai continué à chercher. Alors j'ai cherché, et pour vous dire à quel point l'art africain est une chose qui peut être parfois méprisée, j'ai amené deux échantillons, deux exemples. De choses qui sont très très différentes en croyance. D'abord, cet objet-là, qui est un sceptre en bronze, qui vient du pays Yoruba. Alors, le Yoruba, c'est au Nigeria, et une petite partie au Bénin actuel. Je dis Bénin actuel pour qu'on ne confonde pas avec le royaume du Bénin, qui fut un royaume très important, qui est aujourd'hui au Nigeria. Et le Bénin actuel étant l'ancien Dahomey français. Et donc, j'ai acheté ça dans une trocante au milieu de casseroles. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je m'intéressais à ces objets, c'est que je m'apercevais que d'abord en Lorraine c'est très peu connu, c'est très peu recherché, par mépris probablement, où il n'existe pas de collection publique, a priori il y a quelques traces au musée de Bar-le-Duc, je crois, il y a eu plusieurs expositions à Épinal il y a quelques années, une vingtaine d'années je crois, mais bon c'était très bref, ça a duré 15 jours. Et il y avait un petit musée chez les missionnaires à Sion-Vaudémont, qui n'existe plus depuis une dizaine d'années maintenant. En bref, je m'étais dit, dans ce domaine-là, on peut chercher, on peut trouver, on peut amener une curiosité et un goût sur cela. Donc cet objet en particulier, c'est un ami qui me l'avait signalé donc, dans un dépôt vente. Et c'est en fait un objet en bronze, c'est très rare. C'est certainement un sceptre de commandement d'un ordre religieux. Alors ce qui est intéressant, c'est la représentation. On a au-dessus un dieu qui est avec une représentation de la francique. Et là, en fait, c'est la foudre. Et la foudre, en fait, c'est intéressant. À l'origine, ce dieu-là était un homme. C'était un roi Yoruba qui a vécu il y a quelques siècles, même beaucoup de siècles. On n'a pas exactement les dates, hein, parce que ça glisse entre l'historique et puis le légendaire. Et ce roi s'appelait Shango. Et Shango était un roi, au départ, très généreux, très sympathique, qui très, très rapidement, malheureusement, comme beaucoup de rois, a commencé à se prendre un peu au sérieux et est devenu un tyran. Donc il a fait des guerres très cruelles, très, très dangereuses. Il a fini par mourir méprisé, mais la puissance qu'il générait a fait que ce roi a été divinisé. Et il est devenu un des principaux dieux des Yoruba. Et chose intéressante, c'est que ce dieu, en même temps, est très connu presque par toute la planète maintenant, puisqu'on sort des Amériques, mais juste aux Amériques, on a le vaudou. Le vaudou qui n'est pas d'Amérique, bien sûr, qui est d'Afrique, qui vient justement du dénommé du Bénin, dont Shango est un des principaux dieux. Alors, ce qui est aussi intéressant sur ce personnage-là, outre le fait qu'il vienne bien sûr d'un homme, enfin, qui représente à l'origine un roi, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est sa coiffe, sa symbolique, la double hache, qu'on retrouve, d'une façon tout à fait curieuse, chez Thor. C'est l'arme de Thor. C'est l'arme d'un des principaux dieux germaniques. Donc, je trouve qu'il y a des fois des rapports comme ça qui se font entre les groupes humains qui prouvent bien que la source est la même. L'inquiétude, enfin, le questionnement sur l'homme est la même. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage-là, donc, est à genoux sur la tête d'une autre personne. Et cette autre personne, c'est une femme, bien sûr, et c'est la déesse de la fécondité, Échu. Et là, par contre, il y a une petite histoire très, très curieuse. En fait, ils sont associés probablement parce que le dieu très puissant qu'est Shango, principal dieu, était infécond et cherchait à avoir des descendants. Donc, il s'est associé avec la déesse de la fécondité pour espérer un jour... avoir ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Donc, Alors, ce type d'objet appartient bien sûr à des membres de sociétés. On n'en connaît pas l'ancienneté, parce qu'on retombe dans ces cas-là. Dans les gros problèmes qui se passent sur l'objet africain, c'est qu'on le trouve par hasard. On cherche dans des bouquins qui vous expliqueront que c'est... Enfin, on essaie déjà de trouver des choses qui se rapprochent. On finit par trouver. Et puis, malheureusement, c'est aussi pour ça que c'est très ambigu, les choses qui sont dites un jour sont exactement dites le contraire le lendemain. Là, c'est tout à fait par hasard. J'ai reçu hier la nouvelle revue, la revue spécialisée sur le sujet qui s'appelle Tribal, et dans laquelle on nous apprend que tel objet qui se vend très très cher depuis 10, 15, 20 ans dans les salles des ventes est en fait n'a jamais existé. C'est une copie faite en Occident. Ça, c'est une chose, mais d'autre part, il y a certains groupes ethniques, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Afrique noire, mais il y a des groupes très très connus qui s'appellent les Sénoufos. Donc la maternité dont je parlais tout à l'heure, ce sont les Sénoufos. Et très longtemps, on a expliqué que c'était un groupe important, et aujourd'hui, on nous explique qu'il n'existe pas. En fait, c'est un autre, ils sont intégrés dans un autre groupe. Lequel autre groupe portait un nom jadis, qui n'a plus le même nom maintenant. Alors, c'est juste pour vous dire à quel point c'est très très difficile de dire quelque chose de sérieux et de vrai sur l'objet africain, sauf donc Échu, c'est vrai, Shango, c'est vrai, ou vous avez des choses beaucoup plus particulières et qui sont très intéressantes aussi. Alors ça, c'est une Si vous prenez, j'en reviens au principe des livres aussi, vous prenez le livre ancien, ils vous expliqueront que ça, c'est un ancêtre, une figure d'ancêtre. En fait, c'est un objet baoulé de Côte d'Ivoire, c'est une femme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux versions de cet objet-là. Pour en savoir la fonction réelle, il faudrait le trouver en activité. Alors, soit on a affaire à un esprit de la forêt, dangereux, très agressif. Alors, qui est en général signalé par le sorcier, le devin du village, enfin celui qui tient le pouvoir, le prêtre en fait, qui sent que quelque chose de négatif arrive. Donc, on fait sculpter par un sculpteur professionnel, toujours. Chez les Baoulés, ce sont des sculpteurs professionnels, qui vont donc, sur commande, faire une représentation d'un objet, d'une femme ou d'un homme. Il faut que le corps soit très très beau. Alors, le pourquoi, c'est parce que simplement l'esprit négatif et agressif est très laid. Et il n'aime pas sa laideur. On suppose que c'est pour ça qu'il est très mauvais et très agressif. Donc du coup, on lui fait un très beau corps en espérant qu'il prenne ce corps pour l'habiter et donc éviter de nuire à la population. Et bien sûr, pour qu'il reste encore, on le nourrira régulièrement. Ça, c'est une version. C'est une des fonctions de l'objet. Mais le même objet peut avoir une deuxième fonction, mais là, par contre, qui est beaucoup plus personnelle. C'est une fonction qui correspond à l'individu qui, dans un rêve, va sentir la nécessité d'avoir... Il va voir sa fiancée ou son fiancé. Précision, qu'on soit homme ou femme, c'est pas forcément, si on est homme, c'est pas forcément une fiancée, ça peut être un fiancé, et réciproquement. Là, c'est vraiment le rêve qui va déterminer quel est le personnage qui vous hante. Et une fois que cette vision a été faite, il faut immédiatement aller voir le spécialiste pour faire sculpter un objet qui sera la représentation de cette personne. Alors, la grosse différence entre les deux, c'est se différencier au niveau de la patine. Patine d'usage qui n'est pas la même parce que un des objets est destiné à rester tant qu'il est considéré comme actif, il est encensé, il est honoré, on lui donne des sacrifices et autres. Le deuxième, il est personnel. Alors donc, en tant que personnel, bien sûr, on doit le laver, on doit le nourrir, on doit dormir avec. Alors je crois que dans mon souvenir, une personne qui a donc cette fiancée s'appelle un blololoblan, ou blolodan si c'est une femme. Et donc la personne, une nuit par semaine est obligatoirement à passer avec cet être-là. On ne va pas avec son mari, on ne va pas avec son épouse, c'est interdit. Il faut absolument lui donner une nuit par semaine, sinon les maléfices arrivent. Et si bien sûr on ne fait pas sculpter l'objet ou si on ne l'entretient pas, on a des soucis assez graves. Cécité, maladie grave. Et donc c'est intéressant pour voir à quel point un objet, parce que je connais, on a d'autres types qui sont exactement inverses. Bon, je n'ai pas amené ici, mais l'exposition. On a un objet très, très bizarre, on peut même dire assez laid, qui représente une espèce de... Moi, je l'appelle Darius parce qu'il a un peu un visage qui rappelle un peu les anciens Perses, seulement il y a une aile derrière, c'est très, très, très étrange et agressif. Et là, on part du principe inverse à ce qui se passe chez les Baoulés. C'est-à-dire qu'on a un objet qui est laid parce qu'il est destiné à attirer un esprit mauvais. Et comme l'esprit mauvais est laid, il ne va pas se retrouver dans un corbeau. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir à quel point dans les cultures africaines, on a, tout comme à d'autres cultures, hein, c'est simplement la différence, c'est que les Africains ont encore des possibilités d'activité connues aujourd'hui, contrairement à nos ancêtres païens où il n'y a plus beaucoup de traces. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point l'humain, pour répondre à ces interrogations, va choisir des réponses qui semblent extérieurement opposées, alors qu'en fait, en réalité, c'est la même chose. Le même point, il faut en fait matérialiser l'esprit ou l'ancêtre ou voir le Dieu, mais... Une fois de plus, je pense que les livres anciens parlaient beaucoup des dieux en Afrique noire. En fait, ce sont plus des esprits que des dieux au sens propre. Pratiquement toutes les cultures africaines que je connais, enfin le peu que je peux en connaître, sont des cultures, tout comme la culture occidentale, monothéiste, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Il y a vraiment un dieu supérieur à tout, qui a créé l'univers. Seulement, il n'est jamais représenté, il n'est jamais, sollicité, parce qu'on considère que lui ayant créé l'univers, il y a autre chose à faire que s'occuper d'une petite espèce qui se travaille sur une petite planète. Donc il a dévolu sur cette planète des esprits, ou un d'entre eux, au Burkina Faso, par exemple, les Gurunzi ont des masques très impressionnants qui sont plus ou moins animaliers, mais à chaque fois, ce masque ne représente pas un animal, en fait, c'est le fils de Dieu. Dieu a envoyé son fils sur Terre pour protéger les humains. Ça rappelle quelque chose, il me semble, un petit peu. Et donc, bien sûr, cette démarche a été totalement niée par les églises qui cherchaient à convaincre et à christianiser ou à islamiser les païens d'Afrique. Donc, que vous dire d'autre ? Parce que je parle très vite. Et puis, les fonctions, donc... Je sais pas s'il y a des questions particulières, parce que là, je peux raconter mon chemin, comment je suis arrivé là-dessus. Pourquoi je le continue ? Je le continue, je continue ce chemin-là, parce que de fait, ces croyances très très riches, très variées, qui se traduisent plastiquement d'une façon très différente, peuvent nous apporter donc des émotions esthétiques, mais aussi donc des émotions rituelles, sincères et profondes, retrouver en elles des sentiments perdus. On peut retrouver des liens avec des cultures lointaines. On peut retrouver aussi en lien avec l'Extrême-Orient la métempsychose, puisque très très souvent, une statue d'ancêtre qui est faite, qui est destinée à être honorée, lorsque elle continue à être intégrée dans la société. Jusqu'à un certain temps, lorsqu'une fois de plus, la statue est considérée comme ne pouvant plus fonctionner. Elle est à ce moment-là donc abandonnée. Et très souvent, c'est à ce moment-là que l'âme du défunt est libéré, peut enfin arriver, comment dirais-je, au pays des morts. Mais dans ce pays, très souvent, donc, on considère qu'une âme de défunt va revenir sur un descendant. Donc là, on retrouve un autre chemin sur d'autres cultures, une métempsychose. Alors, elle n'est pas écrite comme telle. Alors, une fois de plus, c'est pas très connu parce que ce n'est pas écrit non plus. Ce sont toutes des cultures qui sont racontées, qui sont retraduites aujourd'hui, qui nous sont apportées par des initiés. Mais avec ce gros problème aussi, c'est que les initiés en question n'ont pas le droit de raconter les connaissances, les cultures particulières, de peur que leurs propres démons ou leurs propres dieux ne viennent se venger sur eux, puisqu'ils auraient trahi en fait la culture générale de la population. Donc en fait, c'est très difficile de savoir la couche profonde de signification de quelque objet que ce soit en Afrique noire. Donc en fait, on se retrouve. On a l'exemple, par exemple, Marcel Griol, qui fut le grand connaisseur des Dogons, qui est allé chez eux pour connaître un peu ces cultures-là. Donc, militanté par la France, dans une expédition un peu catastrophique, en ce sens qu'à l'époque, les Africains n'avaient aucune importance ni aucun intérêt, vu qu'il fallait les civiliser à n'importe quel prix. Donc, Marcel Griol, avec son équipe, sont amusés à saisir, enfin, sont amusés, façon de parler, mais ils ont saisi tout ce qu'ils estimaient important afin de pouvoir étudier en Europe, sans savoir que certains vols d'objets, et c'est aussi la conséquence parfois de ce qu'on peut trouver dans les salles, on ne se rend pas compte que parfois on a saisi un objet sacré et que celui qui est responsable de sa perte peut être tué, il peut être exilé. À l'exposition, vous verrez un homme oiseau, par exemple, qui est en pierre. C'est un homme oiseau qui vient du Burkina Faso. On ne sait pas à quoi ça sert. Apparemment, ce sont des objets qui servent de figure tombale. Ce que l'on sait seulement, c'est que la personne chargée de garder ces objets-là, si l'objet disparaît, elle va être considérée comme responsable de sa perte, et donc va être exilée du village ou tuée. C'est un aparté pour dire à quel point la conséquence du pillage de l'Afrique noire est quand même gravissime parfois. On a ça aussi au niveau des fouilles archéologiques où on touche aux âmes des ancêtres. Et donc, il peut y avoir des conséquences graves sur les peuples qui n'utilisaient plus ces objets, mais qui ont encore en mémoire la force qui était censée être dans ces objets, qui y sont encore, d'ailleurs, quelque part, parfois. Donc, pour revenir donc à Marcel Griol, il est arrivé là-bas dans les années 30, et il est mort dans les années 50-60. Et entre-temps, donc, il a passé pratiquement 30 ans chez les Dogons. Dès le départ, il a fait ses études, ses analyses, il a demandé des explications sur à quoi servent les objets, quelles sont les limites. Il s'aperçoit qu'il y a un mythe énorme, colossal, très important, une cosmogonie fantastique chez les Dogons. Et puis, les années passent. Et puis un jour, les Dogons manquent de mourir pratiquement tous de soif, parce que c'est un pays très pauvre. Il y a eu des sécheresses colossales. Et donc, Marcel Griol, de par son pouvoir, puisque c'était quand même un personnage important français, a réussi à avoir de l'aide humanitaire de l'État, a réussi à faire creuser des puits qui ont sauvé les Dogons. Et ça, c'était pratiquement, ça faisait déjà 20 ans ou 30 ans qu'ils étaient chez eux. Et c'est à ce moment-là qu'un ancien Dogon est allé le voir, lui a dit, ben maintenant, tu veux savoir ce qu'on pense? Pose tes questions, va te répondre. Et Griol a dit, mais attendez voir, ça fait 30 ans que vous me répondez, ça fait 30 ans que je prends des notes sur ce que... Il dit, oui, mais là, on t'a fait plaisir, on t'a dit ce que tu voulais entendre. Maintenant, on va te dire ce que c'est, parce que maintenant, tu fais partie de nous, vu que tu nous as sauvés, maintenant, tu es un Dogon. Donc c'est aussi pour ça que c'est très difficile de savoir. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop étendre sur ce que les objets peuvent être, parce que je n'en sais pas plus que les autres. Sauf que parfois, par quelques lignes, par quelques instants, on découvre des raisons d'être. Normalement, donc, ce sceptre-là, par exemple, en général, pourquoi est-il en bronze? J'en sais rien. C'est le seul que je connaisse dans tous les livres que j'ai. Dieu sait que j'ai des armoires complètes. En général, ces objets-là sont des sceptres en bois qui appartiennent à une association essentiellement féminine, je crois. Où les femmes portent donc ce qu'ils appellent la noche et shango, c'est un sceptre en bois avec le personnage là au-dessus. Mais il n'y a pas Ichu en dessous. Il y a uniquement le personnage. Donc ça, c'est inconnu. D'où le plaisir de s'intéresser et de s'enfoncer sur ces cultures-là, esthétiques et profondeur mythologique, en espérant qu'on trouve des fois quelques lignes. On a aussi des secteurs complets où, hélas, on découvre d'une seule fois, par exemple, vous avez, là j'ai pas pu en amener ici parce que c'est trop fragile, des poèmes Alors les poames, ce sont des objets très intéressants, ce sont des poteries qui sont faites par une potière, une femme spécialisée qui doit être automatiquement ménopausée, parce qu'autrement on considérait que ça peut être très dangereux de toucher à l'objet. Donc elle fabrique des corps qui sont faits pour les défunts. Lorsqu'une personne meurt, elle est morte, mais donc la responsable rituelle fait à son effigie un pot à âme, qui est censé conserver à l'intérieur l'âme de cette personne. La pièce est commandée par la fille aînée si c'est une femme, et par le fils aîné si c'est un homme. Et cet objet va participer toute la vie durant de l'individu, enfin du fils et de la fille. Il va être intégré à tous les rituels, toutes les fêtes. On va le questionner, on va le nourrir, on va le laver. Et c'est seulement au moment où le fils ou la fille va mourir que l'objet sera cassé. Donc là, j'en reviens au pillage, parce que j'en ai acheté 3, que j'ai trouvé tout à fait légalement en Belgique. Ce marchand belge en avait peut-être 10, 15, 20. Or, c'est à savoir que lorsque le fils ou la fille meurt, l'objet est cassé, il est jeté. Or, ceux que j'avais étaient en bon état. Donc, qu'est-ce que sont ces objets-là ? Le marchand qui me l'a vendu était un type absolument remarquable, malgré qu'il soit marchand, mais c'était un personnage très intéressant, très, très ouvert sur les cultures africaines depuis toujours. Son père avait ouvert un magasin en 1928, donc en fait, il avait une très très longue culture derrière lui, et je pense qu'il n'était pas... il ne risquait plus rien, il risquait pas d'être envoûté maléfiquement, parce qu'il avait tellement de choses positives et négatives autour de lui que même si ça avait pu avoir un mauvais sort, il aurait été largement protégé. Mais donc, dans un de ces objets, il a entendu quelque chose, une espèce de boule. Il a secoué, et c'était apparemment une figure de femme, et il pense qu'à l'intérieur, c'était un fœtus. Donc, ce sont des objets qui sont quand même très très précieux, et ça arrive ici, ça se vend très... Enfin, je ne dirais pas couramment. Mais pendant que nous, on s'amuse à pleurer lorsqu'on fait un petit graffiti sur une de nos tombes, qui s'enlève facilement comme graffiti, ça ne nous dérange pas de vendre sans difficulté dans tous nos magasins de France, de Belgique ou d'ailleurs... des objets qui sont des objets sacrés, qui ont été pillés. Même des cadavres complets, comme on peut voir par exemple à Paris, si vous allez dans le quartier Saint-Germain, du quartier primitif, d'art primitif, comme on dit parfois, parce que le terme d'art premier, pour moi, est encore plus épouvantable que primitif, sachant que s'il est premier, il est premier de quoi ? C'est le premier des humains, donc ça veut dire qu'il est très ancien, qu'il n'a pas évolué. Donc c'est pire que primitif, parce que pour moi, primitif, à mon oreille, ça sonne comme les primitifs flamands. Donc un art très, très pur, qui a une signification. Je ne vais pas glisser là-dessus. Autrement, c'est pas le sujet. Mais donc sur le plan de, oui, vous allez à Saint-Germain, vous allez voir aussi bien des momies dans des vitrines. Alors que si jamais, j'ai vu il y a 2 ans, 3 ans, un scandale colossal parce qu'on a piqué 2 crânes à l'ossuaire de Houdémon. Là, ça crée un scandale mondial. Par contre, à Paris, on a le droit de vendre, d'acheter des momies qui sont en vitrine. Tout le monde se promène. Le respect humain, il vaut pour qui exactement ? Donc tout ça, on découvre petit à petit quand on s'intéresse, comme moi, à l'art africain. Puis bon, ça permet aussi, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de cet aspect-là, parce que c'est pas par rapport aux dieux, c'est pas par rapport aux démons ou aux monstres, ou à l'imagerie. Alors si, justement, c'était aussi une chose qui m'a fait un petit peu hésiter, non pas à participer, mais il fallait trouver une façon d'en sortir, parce que parler de démons et merveilles ou de monstres et merveilles dans le cadre de l'Afrique noire, c'est recoller sur l'image coloniale. Tout ce qui est africain est hideux, tout ce qui est africain est primitif, tout ce qui est africain est mauvais. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est aussi subtil et c'est aussi passionnant, c'est pas plus débile que d'avoir un gris-gris protecteur africain que d'avoir un Saint-Christophe autour du cou, par exemple. Si on veut vraiment faire un parallèle entre nos propres cultures et les leurs, il y a très très peu, il y a que les noms qui changent. Donc apparemment, ils ont un dieu unique qui n'est pas prié contrairement au nôtre, mais encore que nous, c'est plutôt les couches intermédiaires, exactement comme chez eux. Ils sont, on se prétend un monothéisme, mais nous pratiquons aussi, malheureusement, je suis désolé, mais demi-dieu, puisque nous avons aussi des anges et des démons. Je ne vois pas trop de différence entre ça et puis des divinités qui seraient créées par Dieu, c'est la même chose, simplement on les a étiquetés différemment. Ils ont des anciens qui sont éventuellement divinisés, on a la même chose chez nous avec les saints. Donc en fait, si on regarde bien, si on s'amuse à approcher un petit peu, il n'y a que les codes qui changent, il n'y a que les esthétiques qui changent. La laideur, on l'applique sur le diable, parfois. La beauté, sur la Vierge ou sur les anges. Et donc, on retrouve ça exactement pareil, avec des petites variations. Donc, une fois de plus, en cherchant, en grattant, si on simplifie à l'extrême comme je le fais, parce que hélas, je suis très simplificateur, mais ça, c'est peut-être mes origines, l'intérêt de la bande dessinée, c'est pas un art très raffiné, forcément. Et donc, en cherchant un petit peu, on s'aperçoit que les cultures humaines sont presque partout pareilles. Et donc, il y a juste le plaisir à découvrir la poésie qui se cache derrière, et les inventions humaines qu'on peut en trouver. Voilà, ce que je vais vous dire de plus.
Eh bien, je vous remercie donc pour toute votre excellente. Alors, je vous avais averti, Monsieur Crèche est un passionné, passionnant. Et est-ce qu'on peut faire circuler les objets? Est-ce que ça vous pose un problème?
Non, pas de problème. Simplement, il faut faire attention parce que celle-ci a été reconstituée.
Voilà, je vous propose de les toucher. Peut-être que vous allez pouvoir leur restituer une partie de la magie qu'ils ont perdue.
Ah oui, alors c'est juste une chose que je voulais vous signer pour ça, parce que j'ai oublié. Quand un objet donc, est considéré comme n'étant plus efficace, il est jeté, il est abandonné et très souvent il est cassé. Alors, il est cassé simplement pour que le peu d'esprit négatif, enfin le peu d'esprit très puissant qui sera intérieur, évite de continuer à se venger sur la personne qui le toucherait. Donc c'est pour ça que parfois, j'y pense, parce que cet objet-là, c'est aussi pour ça que je l'avais amené, parce que le visage, vous pourrez voir que, si vous regardez la chevelure, vous verrez qu'elle est très très fine, très délicate, enfin ce qui en reste, mais que le visage est écrasé. Et je pense qu'en fait, une fois que la statue n'a plus sa fonction, à mon avis, ça c'était une fiancée de l'au-delà. Donc, lorsque la personne est décédée, sa fiancée n'a plus le lieu d'être, donc on lui a certainement broyé le visage, afin de lui arracher le peu de vie qui restait, afin qu'elle semble vraiment, réellement morte.
Alors cette histoire me rappelle un objet que j'ai chez moi, qui est une sainte barbe, et cette sainte barbe avait les deux mains comme ça, et elle a les deux mains coupées à hauteur des coudes. Et alors je demande à l'antiquaire pourquoi cette sainte barbe a été abîmée de cette façon-là. Il me dit tout simplement parce qu'on lui avait fait des prières pour qu'elle puisse répondre à ces prières-là, et comme elle n'a pas répondu positivement à ces prières-là, on lui a coupé les bras de façon... De façon à lui faire perdre son inefficacité, si je puis dire.
Alors, justement, dans ces cas, dans les choses amusantes, alors c'est pareil, il y en a une petite, je crois, qui est dans une vitrine là-haut. Alors, c'est en Guinée. Ils trouvent dans les champs, des statues en pierre, des sculptures en pierre, qui s'appellent les Nomoli. Et ces statues-là, il y a deux groupes, en fait, il y a deux peuples. Il y a les Nomoli, Cherbro, et puis il y a les voisins, dont le nom m'échappe à cette heure-ci. Et donc, le principe est le même. Ce sont des petites statuettes qui ont été créées il y a 200, 300, 400 ans. Par qui, on ne sait pas trop, et peut-être les ancêtres de ces gens-là, mais on ne sait pas ce que c'est, et c'est abandonné. Donc le paysan cultive, sort ses statues, et lui part du principe que cette statue est une statue protectrice des champs. Donc, alors c'est là où c'est amusant, parce que là, on a les deux variations, une fois de plus, un peu comme cette statue-là, où on a deux façons de faire. Un des peuples va honorer la statue, afin que la statue lui donne une fertilité aux champs remarquable, ce qui est logique. Et le deuxième fait pareil, mais il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en a un, si la statue ne donne pas ce qu'il faut, il la bat. Et donc souvent ces statues-là sont cassées, parce que le type, étant donné que le dieu ne meurt pas de ce qu'il veut, donc il est battu, exactement qu'un gosse qui n'est pas gentil. Je trouve ça génial comme... Les variations subtiles qu'il peut y avoir dans les cultures et les façons d'agir, c'est extraordinaire. Là, on retrouve ça.
La parole circule. Oui, madame.
Oui, bien sûr. Bien sûr, vous en verrez plein à l'exposition.
Vous pouvez nous expliquer le rôle?
Alors les masques, ça dépend. Ça dépend, parce que les masques, bon, si, en général, un masque, c'est un masque qui... Alors, la fonction où... un masque, normalement, si vous voulez, c'est pas... C'est un objet... Non, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un masque, c'est d'abord, contrairement à ce qu'on prend ici, on n'a généralement que le visage. Un masque, normalement, c'est un corps complet. La plupart, c'est pas toujours le cas, mais très souvent l'objectif avec un masque, c'est qu'un humain n'est plus humain une fois qu'il porte le masque. Il prête son corps à l'esprit qu'il est censé incarner. Donc il n'existe plus. Il peut être mis en transe, il peut être... il représente des ancêtres, il représente des esprits, il représente... En général, c'est ça, c'est des esprits ou des ancêtres, ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Burkina Faso, les peuples Gurunzi, où c'est carrément le Fils de Dieu qui est représenté. Alors, leur utilité, c'est... précision aussi, c'est que la vision d'un masque, le fait de regarder un masque, tout le monde n'a pas le droit de voir un masque. Alors, bien, c'est pareil, là, on va rentrer dans les considérations. Selon le peuple, on a certains masques autorisés par tous, d'autres interdits de vision pour les femmes, pour les enfants, pour les non-initiés, par exemple. Celui qui les voit, qui n'a pas le droit de les voir, peut, dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu calmé, c'est dommage, mais dans le temps, on pouvait tuer si on voyait un masque, on n'avait pas le droit de voir. J'ai encore, par exemple, à l'exposition, vous avez un masque pendé, un joli visage, c'est un masque qui servait... Alors, il n'est pas sacré. Alors c'est pareil, il y a des masques qui sont sacrés par eux-mêmes, qui sont, comment dirais-je, une fois que la cérémonie est terminée, le masque est gardé dans des cases particulières, protégées. Et bien sûr, il est probablement aussi, je suppose, nourri dans certains cas. Alors que d'autres masques, ils ne sont portés qu'une fois lors de la cérémonie, et ils sont brûlés après. Ils sont brûlés pour que l'esprit soit libéré. Ou ils sont brûlés parce que simplement, ou alors plus simplement encore, depuis la colonisation et que l'Occident s'est intéressé aux objets africains, ils ont trouvé que c'était d'un très bon rapport parce qu'ils savent qu'un objet qui a servi vaut beaucoup plus cher que lorsqu'il n'a pas servi. Et donc du coup, il sert une fois, et une fois que la cérémonie est terminée, on le vend à l'Occidental 10 fois plus cher que s'il n'avait pas servi. Donc là, si vous voulez, c'est des considérations humaines qui... Alors ça existe pour ce type de masque-là. Alors je voulais parler de ce masque parce que à côté de lui, il y a d'autres masques. Malheureusement, il n'est pas ici. Mais d'autres masques qui sont beaucoup plus étranges, mais dans le même groupe, qui eux, par contre, sont totalement interdits à la vision de près. C'est-à-dire qu'on les aperçoit dans le lointain. On ne peut pas les autrement. On ne peut pas les approcher. On ne peut pas toucher le costume. Ni l'homme, bien sûr, qui le porte, parce que ce sont pratiquement toujours des hommes. Hein. Alors, disons, 99% des masques africains sont portés par des hommes. On ne connaît en port de masque qu'un seul groupe, à cette heure-ci, en Guinée, de femmes qui ont un masque particulier. C'est en Guinée, si je me souviens bien, Sierra Leone. Et là, c'est le contraire. Dans ces cas-là, l'homme n'a pas le droit de toucher le masque. S'il touche le masque... alors, sauf, bien sûr, le sculpteur, hein, qui, lui, de par le fait que c'est un homme qui sculpte. Alors, pourquoi l'homme ? Parce qu'on va aussi, dans ces cas-là, on se dit aussi pourquoi sont souvent des hommes ? Parce que l'homme, c'est le forgeron. Le forgeron, c'est l'homme qui a la maîtrise du fer, donc qui a un pouvoir particulier qui est assimilé à un personnage directement lié avec les dieux. Donc, lui, il faut du métal aussi pour sculpter un masque, donc généralement, presque toujours, le forgeron est en même temps le sculpteur des masques. C'est pas valable partout, hein, mais c'est quand même une généralité. Pour faire un masque, une fois de plus, puisque vous voulez savoir pour le masque en particulier à quoi il sert, il y a aussi à savoir que le masque n'est pas sculpté n'importe comment. On ne choisit pas n'importe quel arbre. Et lorsque l'arbre est abattu, il faut lui faire une prière. On retrouve là les Amérindiens, par exemple, lorsqu'ils tuent un animal, qui vont demander pardon à l'esprit. Voilà, c'est... En Afrique noire, non, l'instrument de musique en lui-même n'a pas de sacralité. À ma connaissance, il n'y a pas de sacralité. Oui, mais c'est pas... Il apporte une voix. Mais lui, l'objet en lui-même n'est pas sacré. Tout le monde peut toucher un djembé, tout le monde peut toucher un tambour ou autre. L'objet n'est pas sacré par lui-même. Sauf certains tambours particuliers avec crâne et autres qui sont des anciens tambours de guerre ou tambours de sacrifice. Mais ça, bon, c'est un petit peu différent. Et donc le masque, le masque doit être considéré aussi comme n'étant pas un objet figé, c'est un objet qui bouge. C'est pas fait pour être regardé, accroché sur un mur. C'est fait pour être vu donc avec un costume complet et être en mouvement. Donc il sert lors des processions, il sert bien sûr aux funérailles, il sert à tout ce qui est initiation, alors funérailles soit de tout le monde, soit dans certains cas sur des masques très particuliers de pouvoir qui servent uniquement pour les enterrements des initiés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y avait bien sûr dans le temps des masques de guerre, mais comme les guerres maintenant... les guerres ethniques, disons, sont très très, sont plus du même type. Toute cette partie-là a été arrachée. À la limite, c'est même dommage parce que quelque part, une guerre ethnique, en général, ça s'arrêtait avec le premier sang. Alors que par contre, nos guerres à nous, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Quoi. Autrement, comment ça. Donc certains masques sont plus ou moins. Alors, si, une chose importante aussi sur le masque, c'est qu'un masque qui devient trop vieux, qui est très abîmé, en général, s'il était très efficace, il est gardé. Il devient un masque mère. Alors ça vaut surtout pour les secteurs Mali, Burkina Faso. On a ce qu'on appelle les masques mères. On n'a pas ça ailleurs parce que, alors, je pense que la raison est simple. Dans les secteurs Burkina Faso, Mali et autres, on est des secteurs de savane. Le bois, premièrement, est rare. Et deuxièmement, ce sont des secteurs secs. Donc le bois se garde mieux. Contrairement à l'Afrique centrale, qui sont des secteurs humides, où il y a énormément de bois, mais où, hélas, il y a aussi beaucoup de xylophages. Et donc les masques vivent en général 10 ans, quoi, 10 ans, 15 ans. On ne le préserve pas. Alors comment un masque, sachant qu'il est censé quand même garder en lui un esprit fort, simplement le bois lui-même garde un esprit fort, la façon de faire, c'est qu'en Afrique centrale, lorsqu'un masque commence à devenir un petit peu vieux, on considère qu'il perd sa force, donc un sculpteur va sculpter son remplaçant, et les deux masques vont être mis en contact. Et on partira à ce moment-là du principe que le contact a fait que l'esprit a trouvé un nouveau corps, et donc le vieux masque sera détruit, donné ou vendu. Donc vendu maintenant parce que... Alors c'est-à-dire c'est une technique qui a été trouvée par certains marchands belges pour avoir des masques sacrés anciens. Ils ont proposé, ils ont été voir les anciens, le conseil des anciens, savoir si éventuellement ils pouvaient acheter ou... Et on dit, ben non, on ne peut pas, c'est sacré. Oui, mais vous ne croyez pas que le masque, il est fini, il ne marche plus? Ah si, vous étiez très... Mais donc, il s'est passé un trafic. Les autres ont accepté de se faire payer un masque neuf. Mais c'était pas du tout, je veux dire, ils n'étaient pas fous. Hein, c'était consciemment, ils se sont dit, tiens, c'est une occasion de se faire un petit peu de richesse. Donc en fait, ils savent aussi très bien eux-mêmes qu'un masque, le bout de bois en lui-même, l'esprit est dedans, mais il peut très bien être placé ailleurs. C'est pas l'objet qui est sacré par lui-même. Et donc par contre, donc au Mali, Burkina Faso, si vous voulez, un masque qui commence à être trop vieux, qui est tombé, qui est abîmé, ou qui est attaqué par les insectes, il ne va plus servir, mais il sera la mère des masques. Ils vont le préserver dans des hôtels particuliers, donc gardés par les anciens, gardés par les personnages importants du village. Et ils seront donc honorés. Et souvent, un nouveau masque sera mis en contact avec le masque. On retrouve d'ailleurs le principe du contact. Il sera mis en contact afin que ce nouveau masque prenne la force suffisante de l'ancien. Alors, pour vous dire à quel point ces masques mères sont importants, il y a je ne sais pas, parce que c'est un livre remarquable qui est à lire absolument pour savoir les conséquences du pillage de l'Afrique noire. C'est un livre d'un certain Roland Baquet qui s'appelait L'or noir, le nouveau pillage. Le pillage de l'Afrique noire, un nouvel or noir. Et dans ce livre-là, il explique qu'un ethnologue français bien connu, ami des bobos qui sont un groupe important du Burkina Faso, a réussi à voler un masque mère. Et la conséquence, c'est que lorsque les anciens s'aperçoivent de la disparition de ce masque, ils se rencontrent, donc ils sont une dizaine de chefs, de responsables, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, le problème, c'est que notre masque mère, c'est lui qui nous fait la communication avec les anciens, avec les morts. Or, les morts apportent, bien sûr, leur propre solution, leur réponse à des vivants pour les aider dans une meilleure vie. Donc, les anciens se disent, mais oui, mais comment on va faire maintenant, puisqu'on n'a plus notre point de contact? C'était le masque qui permettait le contact. À ce moment-là, le chef des anciens dit, il n'y a plus qu'une seule solution, il faut qu'on aille les voir. Donc, la seule façon d'aller voir un mort quand on est vivant, c'est se tuer. Donc le chef a décidé de se suicider. Mais les autres lui ont dit, mais attends, la perte est tellement importante, ça ne suffira pas. Tout le conseil des anciens s'est tué. Tout ça pour qu'un bourgeois soit content de piquer un masque, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que ce masque-là a été volé, pas pour revenir dans un musée, pour être revendu sur le marché parisien. Donc ça, si vous voulez, c'est... Alors donc je suis très gêné d'exposer parfois ce que j'ai, je suis très gêné... Je me suis enfoncé là-dedans sans savoir dans quoi j'allais. Mais c'est aussi ça qui est intéressant comme réflexion, c'est que, si vous voulez, au fur et à mesure, on s'avance là-dedans. Donc je me suis posé dès le départ la question du pillage, dès le départ, je me suis posé deux, mais comme c'était disponible. Mais savoir comment ça peut venir après. Et quelles sont les conséquences éventuelles, ça je l'imaginais pas. C'est petit à petit qu'on découvre ce qui peut se passer. Alors bien sûr, n'amène pas des problèmes, des conséquences graves pour le peuple. Bon, je pense que les masques baoulés, donc qui correspondent à cette statue-là, ils ont des masques portraits très très beaux. Très recherchés, très fortement cotés, parce qu'ils sont très beaux. Et puis en fait, ces masques portraits sont des masques en fait qui sont financés par un riche de la tribu qui veut montrer à quel point il a les moyens. Et donc, comme chez nous, on sort avec une Porsche ou une deux chevaux pour exister, bah, ce type-là donc paye le masque. Alors le masque, actuellement parlant, sert à la tribu, mais en même temps, lui reste propriétaire du masque. Ce qui fait que ces très beaux masques, vous allez les voir parfois chez les marchands. Ça ne sera pas du vol. Ils peuvent le vendre, le masque n'est pas sacré par lui-même. Ils peuvent simplement parce qu'il va décider, j'ai besoin de récupérer mon argent, donc il le vend aux Occidentaux, il se fait des sous avec. Ça, il a le droit de le faire. Ce qui est très intéressant, par contre, en parallèle, c'est que ce type de masque a été copié sur un masque d'un autre groupe voisin qui s'appelle les Yaouré, qui est un tout petit groupe. Parce qu'il faut savoir que les Baoulés ne sculptaient pas de masques avant leur arrivée en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés au XVIIIe siècle. Et avant, c'était un groupe qui ne pratiquait pas le masque ni la statuaire, je crois d'ailleurs. Ils avaient uniquement des statues funéraires en terre cuite. Et donc, ils ont pris cette culture-là, la culture de la statue, la sculpture et la culture surtout du masque, des gens autour desquels ils vivaient. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce masque très beau et donc apparemment très doux, qui n'a aucune valeur sacrée, a été copié d'un masque Yaouré, donc, qui est ce groupe qui était autour d'eux. Et j'ai appris récemment, la majorité des gens qui s'y intéressent, parce que ce n'était pas su avant, il y a un petit bouquin qui est sorti en fait en 2016, hein, c'est pas vieux, qui explique que ces masques Yaouré, aussi doux, aussi sympathiques que les autres, en fait sont des masques d'esprit extrêmement violents et dangereux, que normalement personne n'a le droit de toucher. Et le grand drame, alors on arrive à une autre logique qui est très intéressante, l'Africain, les ancêtres, parce que bien sûr, eux, maintenant, comment est-ce qu'on fait des copies, comment est-ce qu'on fait des fausses, c'est que simplement, les Africains ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont les bouquins et puis ils voient ce qu'il y a dessus. Donc ces livres-là, occidentaux, d'études et autres, sont montrés parfois à des Africains, et en particulier ce livre sur les masques Yaouré a été montré à des anciens, qui, comment répondre à ça? Puisque leur masque, théoriquement, tue celui qui n'a pas le droit de le toucher. Or, ils sont chez les Blancs, chez les ennemis, loin de là, et personne n'est mort. Alors, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit que tous ces masques étaient faux. Ce qui n'était pas le cas. Certains le sont, hein, faut pas. Mais je veux dire, quelque part, vous voyez, le cerveau est obligé de trouver une échappatoire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à une certaine corruption du cerveau sur tout. En même temps, c'est aussi ça qui fait que c'est passionnant, parce que si on regarde un petit peu la subtilité du cerveau humain pour essayer de trouver des raisons d'être et des raisons de s'accrocher à des croyances, c'est très élégant. C'est très élégant. Alors celle-ci est particulière, enfin, elle est, pour ceux qui connaissent un petit peu l'art baoulé, elle a une particularité, c'est qu'elle est habillée. Elle a un pagne. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est intéressant à savoir, c'est très souvent, ça c'est aussi, un côté malsain et de l'occidental, c'est que la plupart des sculptures, donc femmes ou hommes, qu'on trouve en Occident, sont nues avec les parties génitales ou les parties sexuelles, ils ont bien mis en évidence. Alors ça semble choquant, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, à l'origine, à l'Afrique noire, elles n'étaient pas nues. Elles sont sculptées nues, mais elles ont des vêtements. Et c'est simplement parce que ça plaisait mieux aux Occidentaux de les voir déshabillés qu'on arrache les vêtements. Alors je sais en particulier pour une statuette que j'avais trouvée, où là les poils pubiens sont collés à leur emplacement normal. Ce sont des statues qui correspondent. Alors là, c'est encore un truc rigolo aussi. Ça correspond en fait au grand ancêtre du peuple. Mais c'est toujours une femme. C'est censé être un homme puisque c'est l'homme qui a le pouvoir. Mais c'est quand même une sculpture de femme. Parce que c'est elle qui transmet la vie. Donc du coup, ils ont trouvé ce subterfuge. Mais bon, cette statue, elle est toujours vêtue. Elle n'est jamais montrée nue à qui que ce soit. Et en fait, même vêtue, elle est montrée une fois, je crois, par an, lors de certaines cérémonies. Alors c'est en fait c'est la femme principale du chef. Enfin, c'est l'ancêtre du chef, donc qui, une fois par an, la montre. Mais en Occident, on n'en connaît aucune qui soit habillée. Parce que dès qu'on les a pris, on a arraché les vêtements, parce que c'était plus vendable comme ça. Donc ça fait partie de toutes les étrangetés... qui en même temps permettrait de comprendre aussi que la pudeur existe aussi chez eux, même si certains peuples sont totalement nus, et là naturellement, donc sans impudeur, parce que la plupart ont des pagnes, la plupart, de toute façon la nudité n'existe pas vraiment, parce qu'en général la scarification, l'élément qui habille le corps en fait. Voilà. Que puis-je vous apprendre d'autre de plus?
Oui.
Que pensez-vous de la restitution de ces objets?
Je suis pour.
Et donc, votre collection?
Si vous voulez, moi, en fait, c'est pas ma collection. Ça fait donc maintenant une trentaine d'années que je rassemble ça. Alors déjà, au départ, c'est juste un aspect esthétique. J'imaginais pas ce qui était caché derrière. Je pensais pas du tout à quoi ça correspondait. C'était tout bête. Je suis occidental, je suis matérialiste. Je vois ça qui traîne, ça me plaît bien, j'achète. Point. Ça va pas plus loin que ça. Donc petit à petit, très rapidement, donc ce que j'ai expliqué, je découvre autre chose. Mais j'aurais jamais dû, par exemple, l'acheter dans les galeries, ni en salle des ventes, parce que quelque part, mais ça c'est le cerveau, la gourmandise qui fait qu'on glisse un petit peu. Mais au départ, normalement, ce que je voulais faire personnellement, ce que je pense toujours essayer de faire, c'est rassembler le maximum d'objets qui ont été apportés et qui actuellement, ce sceptre par exemple, l'Yoruba dont je parlais tout à l'heure, c'est une chose qui m'avait fortement choqué. Parce que ça, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai trouvé ça avec des casseroles. C'était au milieu de casseroles, de vieux bols d'occasion, dans un dépôt vente totalement lamentable. Dans la vitrine à côté, il y avait deux objets en ébène, deux sculptures en ébène, qui n'avaient donc aucun intérêt rituel. Ni même artistique, pratiquement. Bon, c'était sympathique, mais c'était que ça. Et par contre, ça, c'était... Le blanc pensait que c'était bon, parce que c'était de l'ébène, donc c'était une sculpture africaine valable. Ça, c'est une cochonnerie avec les gamins dans les cochonneries. Donc, un des objectifs, rapidement, c'était de dire ces objets-là méritent mieux que ça. Il faut les extraire, et s'ils redonnaient le peu de choses qu'on peut leur redonner. Le peu qu'on peut redonner, c'est par rapport à des livres. Donc, on ne saura jamais qui il était, on ne saura jamais à qui il appartenait. Donc, on sait d'où ça vient à peu près. On sait à peu près à quoi il peut servir, mais c'est pas suffisant. Il a perdu sa mémoire. Donc, et au moins, sauver ça. Une fois de plus, on revient aussi d'ailleurs sur les marchands qui sont un gros problème, parce qu'un marchand, aussi bien qu'une salle des ventes, jamais on ne vous donnera la source de l'objet. Peut-être que cet objet-là, par rapport à celui qui le possédait avant, il a pu, comme je pense à Nancy, je connais une personne qui a fait des choses pas très correctes il y a très longtemps, mais bon, c'était il y a très longtemps, et qui a pris des objets sacrés, sans imaginer les conséquences. Bon, les conséquences, c'était pas grave à l'époque. Enfin, pour ces objets-là, il n'y a pas de conséquences graves, sauf que ça ne se faisait pas, quoi. Mais donc, cette personne, en prenant ça, elle sait que ces objets étaient rituels. En plus, elle a les photographies des rituels dans lesquels ils pratiquaient. Ces objets arrivent en salle des ventes. Vous ne saurez plus à qui ça appartenait. Vous ne saurez pas de candidate. Vous ne saurez pas de... Parce que simplement, la vente aux enchères ne le dira pas. Parce que si on vous le dit, c'est, comment dirais-je, c'est une atteinte à l'individu, c'est une atteinte
à
la vie privée. Et donc, on ne pourra pas le dire. Et c'est pareil pour presque tout. Donc ça, c'est une chose extrêmement regrettable. Donc, tout ce qu'on peut se contenter de faire éventuellement ici, ce que j'espère toujours continuer à faire, c'est rassembler le maximum de ces objets-là importants pour que ça rentre dans une collection publique, pour qu'à défaut de retrouver leur âme initiale, au moins qu'ils puissent jouer un rôle d'avertissement, bon, de plaisir, bien sûr, de découverte d'autres cultures, mais que c'est le plaisir qui puisse déboucher sur la découverte des crimes occidentaux, ce qui commence avec l'esclavage, qui se continue avec la colonisation. Donc toute cette responsabilité très très lourde qu'on porte actuellement, qui n'est pas suffisamment dite, heureusement qu'on a M. Macron qui a osé, c'est le premier à oser le dire. Il a eu quelques problèmes parce qu'il a osé le dire, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il l'avait au début pour l'Algérie, mais il l'a redit pour l'Afrique noire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il l'a dit quand il était président, donc quelque part, c'était un petit peu mieux. Apparemment, il est lui-même aussi, d'ailleurs, je ne vais pas faire de pub pour lui, hein, c'est juste parce que c'est exceptionnel à ce niveau-là. Mais en même temps, il a aussi, d'ailleurs, accepté, semble-t-il, de restituer au Bénin les trésors royaux qui ont été volés par le général Dodds, enfin, pas volés, confisqués, on dira. Parce que c'est quand même, c'est autre chose, c'est un peu, c'est un tribut de guerre. Et donc, le Bénin, semble-t-il, les réclame. Donc, il semblerait que Dodds soit... Enfin, pas Dodds, pardon. Macron, on le laisserait entendre qu'il serait d'accord pour la restitution. Par contre, la loi française l'interdit. Parce que c'est un patrimoine inaliénable. On a eu le problème avec des têtes maoris qui ont été restituées il y a quelques années, mais il a fallu faire une loi spéciale pour les restituer. Alors, en même temps, il faut aussi savoir que si ça repart, où est-ce que ça va? Est-ce que c'est restitué à qui? Est-ce qu'ils ont les moyens de préserver ou pas? C'est la grosse question qui se pose actuellement. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que une des responsables du Bénin, d'ailleurs, qui demandait la restitution de ces objets-là, a dit. Est-ce que vraiment on a les moyens de les entretenir? Il semblerait que... Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les rendre. Hein. Mais simplement, il faut éventuellement, si possible, trouver le lieu idéal ou l'objet. Parce que soit on est raciste, soit on ne l'est pas. Si on n'est pas raciste, dans ces cas-là, on dit que tous ces objets-là, maintenant, ils ont perdu leur âme. Ils appartiennent à l'humanité. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils soient là où ils sont le plus utiles pour parler de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils représentent. Donc ils peuvent être ici, pour les objets simples. Il y a des objets donc totalement sacrés, comme ceux du Bénin, qui ont leur place uniquement là-bas, sur leur terre. Parce que c'était des objets qui appartenaient de fait à Béhanzine, qui appartenaient à tous les rois, tous les derniers rois qui ont été... le dernier a été déporté, et mort donc en déportation en Algérie. Donc là, de fait, moi, si vous voulez, moi c'est ça mon truc. J'aimerais. Alors, en aucun cas, c'est pour ça que j'aime pas quand on parle de moi comme collectionneur. J'ai une collection d'objets que je rassemble dans l'espoir de les faire apprécier et surtout d'avoir un point de chute public. Et en même temps, donc sans aucune obligation, par exemple, moi, mon idée principale, ce serait faire un fonds d'objets disponibles pour que les écoles, pour que n'importe quel... Parce que si on exige, je veux un musée Krebs ou je sais pas trop quoi, non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, ça rentre dans une collection publique, ça reste dans un fonds public. C'est disponible ou ça ne l'est... C'est disponible pour que chaque société, chaque groupement qui veut faire une étude sur ça, puisse les utiliser, fasse une interprétation, une présentation, pour ne pas imposer un musée lourd et autre. Mais qu'on préserve ces objets-là, ce ne sont pas des jouets, ça doit être préservé. Et si dans le tas, parce que j'ai des objets de fait qui pourraient repartir. Malheureusement pour moi, je suis un passionné de terre cuite et africaine, parce que la terre cuite permet d'avoir des formes très étranges, beaucoup plus libres en fait, si vous voulez, que le bois. Ça va beaucoup plus loin. Et puis surtout la terre cuite, ça nous remonte à des objets qui ont pratiquement 2000 ans. J'ai une pièce à la maison qui a 2000 ans. Elle a été, elle a été testée par thermoluminescence pour bien prouver que c'était une vraie. Donc, c'est des objets qui ont 2000 ans. Et tout ça, donc, quelque part, c'est sûr que... Alors, on va revenir... on est vraiment... là, on est dans l'humanité la plus sournoise qui soit. Le Nigeria, parce que c'est une pièce du Nigeria, a interdit l'exportation de ces objets-là. L'Europe et l'Amérique a interdit aussi l'importation, sauf le petit village gaulois qui s'appelle la Belgique. Donc, les Belges acceptent l'importation. Moi, j'ai acheté chez mon Belge des objets de ce pays-là. Je lui ai dit, tiens, c'est dommage, on n'a plus le droit, on ne peut plus trouver d'objets de Djenné, de Nok et autres. Ce n'est pas vrai du tout. Vous savez, des objets de Djenné, du Nok, moi, je peux en avoir sans problème. Il n'y a aucune interdiction chez nous. La Belgique, alors, je pense qu'en fait, c'est l'hypocrisie de notre système capitaliste actuel qui fait qu'il faut toujours s'arranger pour qu'il y ait une petite porte d'entrée, donner l'impression qu'on interdit, On a le problème aux États-Unis, hein, qui interdit aussi, soi-disant, le trafic d'objets d'art anciens, précolombiens et autres. Et pourtant, Dieu sait qu'on en trouve partout à vendre. Et alors, je reviens à mes squelettes en vitrine. C'est interdit de toucher à tout ce qui est document, tout objet humain est interdit en vente. N'empêche qu'on vend. Je peux trouver, par exemple, chez les Fang du Gabon, ils ont des figures de reliquaires qui sont au-dessus de paniers contenant des crânes. Ça ne serait pas étonnant qu'on puisse trouver chez un marchand le panier avec les crânes des ancêtres. Ça ne choquera personne, ça ne dérangera personne, parce que là, ça va choper un statut d'œuvre d'art. Ça ne sera plus un statut de simple objet. C'est une œuvre d'art. C'est pour ça que ça rend un patrimoine inénéable. D'ailleurs, il y en a des crânes complets, il y en a, à part certains qu'on peut restituer, comme Sartier Bartman, mais des crânes, des paniers d'ancêtres, vous en avez dans les musées en pagaille, musée de l'homme. Enfin, l'ex-musée de l'homme, maintenant c'est à Branly.
Voilà, Monsieur Krebs a eu l'impression qu'on ne tiendrait jamais une heure, qu'il n'aurait pas suffisamment de temps, et il a prouvé qu'il pouvait parfaitement occuper cette heure-là, et peut-être même l'heure suivante. Mais là, on va être obligé On va être obligé de conclure. Donc, vous avez compris, il a abordé un certain nombre de problèmes majeurs, le problème de la hiérophanie, le problème des objets d'art inaliénables, le problème de la restitution. Ce qui nous a passionné chez Monsieur Krebs, c'est le sentiment d'usufruitier qu'il avait de la collection qu'il constitue. On a espéré, en faisant en sorte que sa collection soit accueillie d'abord à Claude Gelée pour montrer aux enfants des écoles, si, entre guillemets, bien évidemment, l'importance de l'art africain, l'importance d'autres croyances que les nôtres. Il a parfaitement rempli sa mission. Il faut absolument aller à la galerie du Bailly pour voir ce qu'il a fait. Et puis, nous avons voulu l'aider en portant témoignage de l'importance de cette collection. Je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier de ce qu'il nous a apporté.
C'est moi qui vous remercie.
Alors j'ai une grande tentation, c'est de m'approprier ces objets, mais je pense que je vais être obligé de lui rendre, parce qu'il y a trop de témoins.
Vous savez, un objet volé qui est volé, c'est plus du... Voler un voleur, c'est pas du vol. Je ne sais même pas...